Chapitre 14. C'était la veille du jour des rois, qui en Normandie est le jour de liberté des domestiques. Dans toutes les fermes et dans presque toutes les maisons, dès l'après-midi de la veille, les travaux sont mis de côté, serviteurs et servantes revêtent leurs habits de fête et s'en vont parfois très loin, le plus souvent à pied, leurs petits paquets au bout du bâton d'épine, vers les villages où vivent leurs parents. La ferme des Landes était en émoi comme les autres. Les filles de ferme et les valets de la bourg se hâtaient de se réunir dans la grande salle où les maîtres, avant de les laisser partir, leur offraient le vin comme à des hôtes. Debout autour de la table de châtaignier, ils trinquèrent gravement, les hommes en ôtant leurs chapeaux, les femmes avec une révérence, et ils vidèrent jusqu'au fond les verres ou les moques qui avaient contenu le coup de l'étrier. Puis ils dirent au revoir au maître et tous franchirent la barrière de la cour. L'air était vif, la gelée traditionnelle des rois semblait planer dans l'atmosphère. Le ciel serait bleu le lendemain. Pour l'heure, il se couvrait d'une légère vapeur grise, qui, tantôt, au coucher du soleil, deviendrait rose. Une fois sur la route, le groupe se divisa. Les uns allaient à droite, du côté des terres, les autres à gauche, du côté de la ville. « Eh bien, marin, bon ami, dit une jeune fille à l'air avenant, vous en venez par chez nous pour aller voir vos gens ?»« Non, 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 dit marin, je m'en vais du côté de Caen. » Vous promenez à la ville? Je vous croyais plus fidèle aux bonnes coutumes du pays. Est-ce que la fête des rois n'est pas faite pour qu'on la passe en famille? Vous auriez honte d'être tout seul dans une auberge où vous ne connaîtriez personne. Oh, si bien, dit gravement marin, c'est pas dans une auberge que je passerai la nuit. Ce sera en chemin de fer et demain, de bonne heure, je serai à Rouen. À Rouen, fit en cœur la troupe qui, prête à se disperser, s'était réunie par attrait de curiosité. À Rouen, répondit bon ami, chacun va voir ses gens. Moi qui n'ai plus de famille ni personne de mon sang pour se soucier de moi, je vais voir ma promise. C'est bien. Approuvèrent les filles, un peu contrariées cependant d'apprendre que ce beau garçon silencieux avait une promise et que par conséquent, il n'y fallait point penser. « Elle vous attend ?» demanda la servante. « Non, pas. J'avais trop peur d'être empêchée, j'aurais point voulu lui causer de peine. C'est une surprise. »« Alors, ben, c'est bien. Bon voyage, malin mon ami. » « Merci, et à vous bon voyage !» répondit-il en levant son chapeau. Les serviteurs de la ferme s'éparpillèrent dans tous les chemins. Marin se trouva bientôt seul sur la route ferme et sonore, qu'il frappait vaillamment du pied. Le jour qui baissait déjà était cependant clair et vif. La verdure brillante des houx luisait dans les baies, et les baies rouges semblaient des points de feu piqués çà et là. Les grandes traînes de ronces revêtues de feuilles brunies restaient immobiles dans l'air, sans mouvement, le long des chemins. Les talus des fossés étalaient l'herbe d'un vert sombre à peine jauni qui caractérise ce pays où la végétation ne meurt jamais et semble à peine s'endormir pendant quelques semaines. Marin voulait être content. Il avait la ferme résolution d'être gai. Sa gaieté, à lui qui ne buvait pas et qui ne riait guère, n'était ni bruyante ni même communicative. Mais parfois, il sentait en lui-même des mouvements de satisfaction lumineuse de la vie et des choses qui étaient sa gaieté. « Je vais voir Monique, se disait-il, je suis content. » Le contentement ne voulait pas venir, malgré la bonne volonté de celui qui lui faisait appel. La fraîcheur vivifiante de l'air, la satisfaction d'un jour de congé, l'espoir de voir sa jeune promise, tout cela ne dissipait que pour un instant le trouble inquiet qui depuis des semaines rongeait le cœur de Marin. « Ces lettres ne sont pas comme au commencement, se disait-il. Et pourtant, si peu de mois ne peut pas avoir changé. » Il se le répétait à satiété, mais ne parvenait pas à se convaincre. Quand elle était partie, si petite, si faible, si enfant encore, il avait ressenti la frayeur de celui qui abandonne au flot une barque trop frêle, elle est faite pour le plaisir et non pour le travail. Elle avait juré de ne pas changer, la pauvrette. Elle était de bonne foi, mais que savait-elle du destin qui l'attendait? Combien sont-ils ceux qui, sûrs d'eux-mêmes, peuvent jurer de ne pas changer? Ne faut-il pas, pour tenir un pareil serment, avoir éprouvé par soi-même que le malheur n'est pas le plus fort lorsque l'homme apporte à lui tenir tête un indomptable courage? Monique, que savait-elle de la vie? N'avait-elle pas toujours été heureuse? Sous le ciel, qui devenait plus gris et qui se piquait au-dessus de sa tête de points pâles, à peine devinés, qui étaient des étoiles, Marin marchait régulièrement. Son pas ferme et lourd de paysan faisait résonner le sol durci, et le rythme de son allure semblait lui chanter le chant qu'à 7 heures les vagues brisées entonnaient autour des roches noires. Là-bas, sous les noisetiers, maintenant dépouillés de leurs feuilles, près du Douai qui ne réfléchissait plus que les rameaux grêles sur le ciel clair, Marin avait vu Monique toute petite, toute petite, qu'il y avait longtemps. Près de sa mère, qu'il avait courbée dans sa hotte de bois où elle était agenouillée, sur le linge qu'elle frappait de son battoir, la petite, toute petite, mordait dans une tartine de pain beurré. Elle pouvait avoir 2 ans à peine, et se tenait bien campée sur ses petites jambes rondes, chaussées de gros bas de laine. Lui, garçonnet d'une 10aine d'années, chassait devant lui du bout d'une gaule le vieux cheval de son père qui remontait lentement le sentier de la falaise portant sur son bas une somme de fougères séchées. Il avait regardé l'enfant drôlette avec ses cheveux blonds, semblables à du verre filé, et ses yeux bleus, rieurs et futés, mais innocents comme les yeux bleus des Véroniques qui croisent au pied des chênes. La petite enhardie avait levé ses bras mignons, demandant à monter sur le cheval. Se baissant vers elle, touché de cette confiance enfantine, il l'avait enlevée et assise sur la fougère embaumée. Le vieux cheval n'avait pas semblé s'apercevoir qu'on eût ajouté à son fardeau, et ils étaient partis ensemble vers le cellier où, somme après somme, la fougère s'entassait déjà jusqu'au plafond vermoulu. Que de jeux, de rires, de cris d'oiseaux dans le vieux cellier, pendant que Marin déchargeait la bonne bête. Il avait fallu arracher la fillette presque de force à la joie de grimper bien haut pour se laisser dévaler jusqu'à terre, au milieu des pennes de fougère roussies par le vent du nord. Elle en aurait pleuré s'il ne l'avait remise bien vite sur le cheval patient, où il la maintenait sur le bas de sa main étendue. Depuis, il l'avait toujours aimée. Le rire de ses yeux bleus lui semblait une fête à chaque fois qu'il la rencontrait. Et maintenant, chose en vérité singulière, pendant qu'il se hâtait vers sa fiancée, c'était la petite Monique qu'il voyait sur la route, un peu devant lui, pas plus haute que le genou, marchant vite et se retournant souvent pour le regarder d'un air malin, prêt à courir s'il faisait mine de l'atteindre. C'était un autre pays, d'autres routes, et cependant la petite Monique allait toujours, toujours devant. La nuit était venue, et sous les étoiles qui brillaient d'un éclat vif au ciel glacé, marin suivait l'ombre de l'enfant heureuse, visible pour lui seul, et que, malgré sa hâte à presser le pas, il ne parvenait pas à rejoindre. La lande s'étendait à perte de vue devant lui, grise et solitaire. Avant de s'y engager, il regarda en arrière. Il quittait le pays bocager, les chemins creux, les ruisseaux qui mouillent familièrement les pieds du voyageur dans les sentiers qui abrègent la distance. Après la lande, il aurait la ville et la station du chemin de fer, trop loin encore pour qu'il en vît briller les feux. Un frisson de froid et de chagrin passa sur lui au moment où il mesura du regard l'espace étendu devant lui. Sans qu'il sût pourquoi, il éprouvait vaguement l'impression qu'il quittait toute une vie ancienne et qu'il s'engageait dans l'inconnu, un inconnu redoutable. Un clocher perdu au loin sonna lentement 9 heures, très haut dans l'air, comme si les sons n'eussent jamais dû toucher la terre. Puis le silence se fit sur la lande, très solennel et si profond que le sifflement d'un souffle de vent dans la bruyère séchée résonna à l'oreille de Marin, l'instant d'après, comme une fanfare éclatante. Il marchait sur le chemin bruni que de profondes ornières dessinaient sur la lande avec des détours capricieux, formés depuis des siècles par le pas incertain du premier homme ou du premier cheval qui avait passé là. Machinalement, pendant des centaines d'années, hommes et bêtes avaient suivi ce premier tracé, sans songer à le redresser pour abréger la route. Pendant des années encore, les zigzags se détacheraient entre les deux nappes de bruyère, tantôt fleuries, tantôt desséchées. L'homme se laisse mener par les choses, plus qu'il ne les mène. Marin se sentit tout à coup horriblement seul, horriblement triste. Il songea à ses compagnons de travail qui étaient tous arrivés à cette heure chez leurs parents ou leurs amis. Ils se chauffaient à la flamme d'un foyer près d'une table bien garnie. Ils avaient dans les yeux la joie de revoir les êtres chers, dans les oreilles la musique des voix aimées et dans le cœur la grande joie d'avoir été attendu, désiré, choyé. Pressant le pas, il voulut évoquer l'image de Monique lui tendant ses lèvres sous le soleil de juillet, dans le cimetière. Il ne put. Il voulut avoir la voir comme tout à l'heure, petite et marchant devant lui sur la route. Il ne le put davantage. Il essaya de se la représenter le lendemain lorsqu'il arriverait et qu'elle pousserait en le voyant le cri de joie qu'il s'était souvent imaginé. Il ne le put pas non plus. Durant les longues heures du voyage dans la nuit glaciale en wagon ou sur les plateformes désertes aux embranchements, il ne put rappeler l'image envolée. Monique avait disparu de son cerveau et il en ressentait au cœur l'impression désolée d'un enfant qui se réveille orphelin. Chapitre 15. Hubert descendait l'escalier lentement, avec la préoccupation pénible d'un homme qui, tiraillé en deux sens opposés, ne sait à quoi se résoudre. C'était un véritable cas de conscience qui se dressait devant lui, le premier de sa vie et, à coup sûr, un des plus délicats qui se puissent imaginer. On surveille volontiers, pour son propre compte, ce dont on croit avoir à se méfier, rien de plus naturel, pour l'être qui se trouve ainsi en état de légitime défense. Surveiller pour le compte d'autrui n'est point aussi aisé. Mais lorsqu'autrui ne peut pas surveiller par lui-même, lorsqu'autrui est la plus chère aimée, la droiture en personne, empêchée par la maladie et l'infirmité, d'accomplir non plus ce qui peut la défendre, mais le devoir de protection nécessaire à son âme. Hubert, fort perplexe, s'arrêta au pied de l'escalier, puis tout à coup remonta comme une flèche. Sa chambre était en haut, non loin de celle de Monique. Il allait chercher la jeune fille, lui dire en face, en la regardant dans les yeux, que sa conduite inquiétait Madame Hortense, qu'elle devait au moins la paix de l'esprit à cette maîtresse si bonne, et que c'était une cruauté que de causer, par les irrégularités de sa manière d'être, un tel souci à ce pauvre être timoré, généreux et enthousiaste, qui avait nom à la Hortense. L'idée était chimérique, chevaleresque, absurde, mais Hubert avait de ses idées, et il savait bien qui les lui avait mises dans la tête. Arrivé au haut de l'escalier, il chercha la chambre de Monique et la trouva. Vainement, il frappa à la porte. Personne ne lui répondit. La clé restée à l'extérieur indiquait que la jeune fille ne pouvait s'être enfermée. À pas lents, il redescendit. Ordinairement, il passait par l'escalier de service. Cette fois, il redescendit par le grand escalier, espérant trouver la petite servante sur le palier, peut-être, ou dans le vestibule. Comme il atteignit le second étage, il entendit la voix de M. Dunois au-dessous de lui et s'arrêta. « Non, disait le maître d'un ton mesuré, pas avant 10 heures. Je ne peux pas rentrer plus tôt. »« Et si je m'endors ?» répondit Monique. « J'irai te réveiller, » fit la voix de M. Dunois. « Mais pourquoi ne m'attendrais-tu pas dans ta chambre ?»« Mais si Fernand il vient, s'il me trouve chez vous, qu'est-ce qu'il dira ?» « Oh, il n'y aura personne dans la maison passé 8 heures, » répliqua le maître. « Tous les domestiques iront dans leur famille ou chez leurs amis. Tu sais bien que c'est aujourd'hui la veille des rois. » Si Hubert avait pu voir le nuage qui passa sur le visage de la jeune fille, il eût eu pitié d'elle. Mais il ne la voyait pas. Glacé d'horreur, il était resté immobile, craignant de comprendre, et comprenant fort bien. « À ce soir, » dit M. Dunois. Puis on entendit le bruit d'un baiser, puis le banquier entra chez sa femme. On n'entendait plus aucun bruit dans l'escalier. Hubert se pencha vers la rampe. S'il pouvait avoir mal compris, mal entendu, si la personne qui avait parlé n'était pas Monique. Il se pencha par-dessus la rampe et regarda. Monique, debout, les deux mains enveloppées dans son tablier par une frileuse habitude de paysanne, regardait alternativement de ses yeux sombres la porte de Madame Hortense et celle de M. Dunois. Elle roulait dans sa tête un problème ardu qu'elle ne parvint pas à résoudre, car après un instant de méditation, elle entra lentement dans l'appartement de sa maîtresse. Hubert descendit alors, stupéfié comme un homme qui a reçu un coup sur la tête. Monique, Monique et Monsieur Dunois! L'horreur du vice s'étalant au foyer conjugal, la petite servante naïve à peine arrivée et déjà corrompue. Et lui, l'époux fidèle, ne se contentant pas d'aller chercher au dehors la satisfaction de ses appétits grossiers, mais introduisant la débauche jusqu'au chevet de sa femme. Le pauvre garçon ressentait ce que ressentent les esprits élevés et délicats la première fois que les laideurs de la vie se présentent à eux. Il restait écrasé sous le coup, ne sachant à quelle branche se raccrocher, voyant tourbillonner autour de lui les remous fangeux de l'égout où se déversent constamment les impuretés de l'existence. Il se trouva dans la rue sans savoir comment. Il entra dans les bureaux, s'assit à sa table et reprit sa besogne journalière sans savoir ce qu'il faisait. Machinalement, il alignait les phrases des lettres qu'il copiait. Son esprit était ailleurs. Et il se demandait ce qu'il dirait le soir à Madame Hortense. Le jour baissa, les becs de gaz revêtus de serge verte remplacèrent pour les employés l'allure incertaine de l'après-midi de janvier. Et tout à coup, un peu avant la clôture du travail, M. Dunois entra. Hubert se sentit recroquevillé jusqu'au plus profond de lui-même à la pensée que cet homme allait peut-être s'approcher de lui et lui parler. Le banquier faisait sa tournée. Monsieur le principal lui donnait des explications et présentait à sa signature quelques papiers survenus depuis le matin. Hubert fut appelé. Le cœur frémissant d'horreur mal contenue, il s'approcha, tenant les lettres demandées. Monsieur Dunois y jeta un coup d'œil et les lui rendit, sans même le regarder. Hubert faisait partie des rouages qui apportaient dans la maison le flot d'or quotidien. Pour le maître, il n'était rien de plus. Le jeune homme pensa à Madame Hortense, dont l'appartement situé précisément au-dessus n'était séparé de lui que par l'épaisseur du plafond. Pauvre chère aimée, si elle savait. Non, il ne lui dirait pas, il ne pouvait pas le lui dire. Monsieur Dunois s'en alla, les bureaux furent fermés, et chacun se dirigea du côté de ses plaisirs. Hubert resta indécis sur le seuil. Qu'allait-il faire? Il pensa à retrouver Monique, à la prendre par le bras et à la tirer dehors en lui disant « Mais va-t'en, malheureuse !» Et puis il se dit qu'à présent, c'était bien inutile, qu'elle lui résisterait et que le bruit d'une lutte serait pour Madame Hortense le plus sûr des avertissements. Quoi faire alors? La rassurer, évidemment. Quoi que pût apporter le lendemain, il fallait donner à cette créature angélique le repos d'une nuit encore. Elle l'accuserait de négligence, peu importait. L'essentiel était qu'elle n'eût pas un souci qu'on pût lui épargner. Fort de cette résolution, il monta chez elle. L'heure s'avançait déjà. 7 heures allaient sonner. Il frappa à la porte bien connue. La voix chère lui dit d'entrer. Il entra. Madame Hortense était seule, sous la lumière atténuée de la lampe à abat-jour. Un peu plus pâle encore que de coutume, elle tenait un livre à la main, mais elle ne lisait pas. À la vue du jeune homme, ce doux visage s'éclaira d'un sourire, comme il devait se souvenir plus tard de ce souvenir et du regard qui l'accompagnait. « Eh bien, lui dit-elle, quand il se fut approché, avez-vous quelque chose à m'apprendre ?»« Mais j'ai fait tous mes efforts, répondit-il avec une affectation de gaieté, qui éveilla aussitôt un doute dans l'esprit clair de la jeune femme. « J'ai bien regardé, bien cherché partout. Vous êtes trompée, madame. »« Trompée, oh non. Monique me cache quelque chose, » fit-elle en détournant les yeux. « Je ne veux pas dire, » reprit Hubert, cherchant à réparer sa maladresse, « que Monique n'ait pas de chagrin. Cela se voit d'ailleurs qu'elle n'est plus la même. » Je veux dire seulement que c'est pas dans la maison. Enfin, j'ai été partout. Il s'embrouillait dans ses phrases. Sentait bien qu'il disait ce qu'il ne fallait pas dire. Les yeux clairs de sa protectrice étaient fixés sur lui. Avec le sentiment qu'il avait fait complètement fausse route, saisi par l'angoisse qu'il ne savait quoi d'inconnu et de redoutable, il joignit les mains. « Oh, madame, dit-il en regardant avec passion, croyez-moi, je vous assure que je vous dis la vérité. Il n'y a rien qui doit vous tourmenter ni vous inquiéter. Tout va bien, je n'ai rien découvert. D'autres n'en découvriront pas davantage, mais je vous assure, je vous assure. » Madame Dunois le regarda jusqu'au fond de l'âme, et sous ce regard, il sentit sa gorge se serrer sous une violente envie de pleurer. « Je vous crois, » dit-elle en baissant les yeux. Elle était absolument certaine qu'il avait découvert le secret de Monique et certaine aussi qu'il ne le lui révélerait pas. Elle sentait peu à peu grandir la conviction mal définie mais déjà menaçante que ce secret l'intéressait elle et que le jeune homme mourrait plutôt que de lui causer un chagrin. De là à deviner la vérité, il n'y avait qu'un pas. Vous ne vous préoccuperez plus de cela, dites ma chère maîtresse, fit-il en employant des expressions de tendresse dont il s'était jusque-là refusé la douceur. Vous ne penserez plus à cela. Cette petite ne vaut pas la peine que vous ayez du souci à cause d'elle. Laissez-la tranquille. Ne songez qu'à vous. Tout le monde vous aime et vous respecte. Qu'avez-vous besoin de vous creuser la tête pour des choses sans importance? Vous n'y songerez plus, n'est-ce pas? Il la vénérait comme une mère. Et il lui parlait presque comme un enfant. Madame Hortense arrêta sur lui ses yeux purs. « Vous êtes une bonne et belle nature, lui dit-elle. Votre cœur est si droit que même l'affection ne peut le fausser. J'ai eu tort de vous demander ce que je vous ai demandé. Vous me donnez plus de joie en ce moment, mon enfant, que pendant toute votre vie. » Il leva sur elle un regard rayonnant dont les larmes brisèrent l'éclat. « Vous avez été une grande consolation pour moi, reprit-elle. Dans la vie inutile et stérile que je mène, c'est quelque chose que d'avoir dirigé vers le bien vos instincts et d'avoir deviné ce que vous pourrez être. Pour cette joie, mon enfant, je vous remercie. » Il s'agenouilla près d'elle, trop loin pour la toucher, mais assez pour être sous sa main si elle l'étendait. « Vous, dit-il tout bas, me remerciez. Oh, mais oui, je vous remercie. J'ai peu de joie. Vous m'en avez donné une. Relevez-vous. » Il obéit. « Vous partirez bientôt, reprit-elle. Je ne sais alors si les circonstances seront ce qu'elles sont aujourd'hui. Souvenez-vous, mon enfant, que dans votre nouvelle carrière, dans votre vie tout entière, mon estime vous accompagnera. Mais c'est une bénédiction que vous me donnez là, fit Hubert d'une voix étouffée. Je vous la donne en effet, répondit la jeune femme. Nous ne parlerons plus jamais de ces choses. Les impressions s'émoussent à être trop souvent répétées, et il faut que vous conserviez celle-là très fraîche et très forte. Elle vous défendra contre bien des pièges de la vie. Il resta muet, plein de la gravité recueillie de ceux qui reçoivent les sacrements de l'Église. « Allez, mon enfant, dit-elle, allez avec ma confiance et mon amitié. » Il la salua et se retourna pour la voir encore. La chambre baignée dans la lumière adoucie, tel qu'il l'avait vu tant de fois. Le petit paysage de Corot, dans son cadre, paraissait plus gris et plus doux encore que de coutume. Et elle lui souriait avec sa douceur divine. Les joues un peu rosées par l'émotion, les yeux un peu plus brillants par quelques larmes d'attendrissement sévèrement réprimées, elle le suivait du regard avec un dernier signe de tête. Oh, comme je mourrais pour elle avec joie, se dit-il en refermant la porte. Mais elle n'en saura jamais rien. Chapitre 16. Madame Hortense sonna et demanda son dîner. Lorsque M. Dunois dînait au cercle, elle se faisait servir dans sa chambre un peu plus tôt afin de donner plus de temps à ses domestiques. Au moment où, servie par Monique, elle achevait son repas, M. Dunois entra, élégant et beau comme de coutume. « Déjà fini, dit-il, et moi qui n'ai pas encore commencé. » « Tous nos gens sortent ce soir, répondit la jeune femme. J'ai fort pressé le service pour leur donner une heure de liberté de plus. » « Toujours bonne, hein, fit le banquier avec un sourire affectueux. Il connaissait aussi bien qu'âme au monde les vertus de sa femme. Il les appréciait, pourvu qu'il ne fût point contraint à se priver en leur honneur du moindre désagrément de sa vie. « Qu'est-ce qui reste ?» demanda-t-il en mettant ses gants. « La concierge avec sa femme, je crois même qu'ils ont invité quelques amis. » Bon, cela, c'est pour la maison, mais pour vous. Monique. Tout ça, fit M. Dunois avec une moue dédaigneuse. Cela me suffit. D'ailleurs, j'ai à lui parler. Elle a décidément quelques soucis qu'elle me cache. J'espère bien, avec une heure de tranquille conversation, l'amener à se confesser. M. Dunois fit un mouvement d'humeur. Monique entrait au même moment avec une tasse de thé sur un plateau et la porte de la chambre resta ouverte. « Bonsoir, ma chère, » dit le banquier. « Oh, je rentrerai tard, probablement. » Ses yeux cherchaient ceux de la petite servante, mais celle-ci, la tête basse, évitait même de se tourner vers lui. Monsieur Dunois sortit sans fermer la porte. Madame Hortense avait déposé sa tasse vide sur la table auprès d'elle, et quelque chose d'étrange se passait en elle et autour d'elle, enfin, quelque chose qu'elle ne devinait pas encore, mais qu'elle allait deviner. Madame va se remettre sur sa chaise longue, demanda Monique. La jeune femme était assise dans le fauteuil où elle s'installait pour prendre ses repas. « Non, pas encore, » dit-elle. Il lui semblait, par la porte entrouverte, entendre du bruit sur le palier. Tout à coup, la voix de son mari appela. « Monique !» dit-il d'un ton rude, comme s'il voulait la gronder. « Monsieur ?» répondit-elle. Au lieu de courir sur le palier où il devait se trouver, elle se dirigea lentement vers lui, tirant après elle la porte sans la fermer. Le bruit des voix aurait dû venir à Madame Hortense, mais son oreille très fine ne perçut qu'un chuchotement. Par un de ces prodiges de force qui se produisent chez les êtres les plus faibles au moment des grandes crises, la jeune femme se leva sans aide et atteignit la porte qui céda lentement sous la pression de ses doigts. Sous la lumière éclatante du gaz sur le fond rouge du tapis et des portières orientales qui décoraient la porte de M. Dunois, Madame Hortense aperçut distinctement, impitoyablement, comme on voit des tableaux vivants, Monique les deux bras autour du cou de son maître, qui, penchée sur elle, l'embrassait longuement. Aucun bruit n'avait trahi la présence d'un témoin. Monsieur Dunois se dégagea en souriant, effleura du doigt la joue pâle de la petite servante et descendit l'escalier. Monique le suivit des yeux, écouta la porte vitrée se refermer et se retourna pour entrer, le visage encore illuminé de la flamme du coupable baiser. Toute blanche, appuyée au chambranle de la porte, Madame Hortense, debout, lui barrait le passage, et dans ses yeux pleins de mépris, de colère et de chagrin, Monique lut sa déchéance. Elle restait sur le palier, frémissant de tout son corps, n'osant faire un pas ni dire un mot, prête à se rouler aux genoux de la femme outragée, prête aussi à se révolter sans mesure ni raison. Tout dépendait du premier mot, du premier geste que ferait Madame Hortense. Celle-ci la regardait toujours, avec la même expression où peu à peu dominait pourtant la pitié. Monique s'aperçut qu'elle fléchissait. Sans qu'elle le sentît, ses jambes pliaient sous elle et elle allait tomber. La jeune fille s'élança, la souda dans ses bras et l'entraîna vers la chaise longue où la jeune femme se laissa tomber en se débattant. « Ne me touche pas ! Ne me touche pas ! » dit-elle d'une voix étranglée. « Malheureuse !» Monique s'était reculée de deux pas et appuyée au mur, elle regardait sa maîtresse d'un œil égaré. Madame Hortense étendit autour d'elle ses mains débiles, trouva l'appui du dossier et s'assit, le visage tourné vers la petite servante. « Toi, toi !» lui dit-elle, « toi que j'ai tant aimé, que j'ai choyé, toi en qui j'avais confiance !» « Ne me dites rien, » fit Monique avec un geste de douloureuse impatience. « Ne me faites pas de reproches. Toi qui vivais près de moi, qui prétendais m'aimer. « Mais je vous aime !» cria Monique éperdue. « Mais je vous aime plus que tout. Ne mens pas. Ne sois pas hypocrite. « Je vous aime !» répéta la jeune fille en frappant du pied avec violence. « Ne dites pas que je ne vous aime point. Je ne mens pas, je n'ai pas menti. Si vous m'aviez demandé si c'était vrai, je vous aurais répondu que oui. » Madame Hortense la regarda avec une sorte d'inquiétude. Elle ne pouvait comprendre ce caractère étrange et complexe. « Oh oui, tu m'aimais et tu jouais ce rôle, et tu me baisais les mains après que... » « Taisez-vous, » fit Monique en mettant les mains sur ses oreilles. « Taisez-vous, cela fait trop de mal de vous entendre. C'est ta punition. Si tu as encore quelques sentiments de remords, écoute-moi. Sache ce que tu as fait. Regarde ta faute en face. »« Non, non, je ne veux pas. Taisez-vous, » cria Monique en se tordant comme sous l'assaut d'une douleur physique atroce. « Je t'estimais, » reprit Madame Hortense, « je t'aimais et tu m'as trompé. Mais taisez-vous donc, » répéta la jeune fille avec l'accent d'une colère grandissante que bientôt elle serait impuissante à contenir. « Je ne veux pas que vous me fassiez mal comme ça. Je ne veux pas supporter ça. Il ne fallait pas commettre ta faute si tu ne veux pas supporter le remords. » Monique frémit de tout son corps et s'appuya fortement contre le mur. Madame Hortense garda un instant le silence. La petite servante la regardait d'un air farouche. Soudain, les yeux de la jeune femme s'emplirent de pleurs et elle laissa échapper un sanglot. « Trompée, dit-elle, trompée par ceux qu'on aime. » Est-il rien de plus affreux ? Monique tomba à genoux et lui tendit les bras de loin. « Mais ne pleurez pas, je vous en supplie. Ne pleurez pas, je ne peux pas vous voir pleurer. » Elle se traîna sur ses genoux jusqu'à la chaise longue et voulut prendre les mains de Madame Hortense. Mais celle-ci la repoussa avec horreur. Monique se releva et le regarda d'un air sombre pendant qu'elle continuait de pleurer. « Dans ma maison, sous mes yeux, vous avez osé vous donner des rendez-vous dans ma chambre, et je ne voyais rien, et j'aimais cette petite. Je vous ai dit de ne pas dire de telles choses, gronda Monique d'une voix rauque. Je ne veux pas les entendre, cela m'étouffe, cela me tue. J'aimerais bien un coup de couteau. C'est le remords. Il est juste que tu souffres, tu l'as mérité. Mais moi, je n'ai pas mérité de souffrir. Je n'avais jamais fait de mal à personne. » Monique se tordit violemment les mains. « Ne parlez pas, gémit-elle avec l'accent d'une douleur intolérable. Ne me poussez pas à bout. Tu m'entendras pourtant. C'est lâche ce que tu as fait là. Tu as trompé ton fiancé. Tu m'as trompé, tu as menti à tout le monde. Mais taisez-vous donc, cria Monique affolée, se redressant comme sous les coups d'un fouet invisible. Elle n'eut pas un instant l'idée qu'elle pouvait s'en aller et échapper ainsi à la torture qu'elle subissait. Elle ne pouvait détacher ses yeux de ceux de Madame Hortense qui la fascinaient. « Misérable hypocrite, oh, que tu m'as fait de mal, je ne me consolerai jamais. Tu sauras jusqu'à ton dernier jour que tu m'as déchiré le cœur. » Monique, folle de rage et de douleur, se baissa et prit un chenet dans la cheminée. Les cendres éparpillées volèrent par la chambre. « Mais taisez-vous, car je ne peux plus, dit-elle, j'en peux plus, tout bas en crispant ses doigts glacés sur l'arme dangereuse. « Me tuer, oh, ce ne sera rien auprès du mal que tu m'as fait. » Le chenet traversa l'espace restreint qui séparait les deux femmes. Un coup sourd, un faible gémissement, le bruit d'une porcelaine brisée, puis le chenet roula presque sans choc sur le tapis dans les plis de la fourrure qui recouvrait la chaise longue. Monique, toute saisie du mouvement qu'elle n'avait pu retenir, resta immobile pendant la durée d'un éclair. Puis elle se précipita vers sa maîtresse en criant « Oh, madame, madame, je vous ai blessée, pardonnez-moi !» Un mince filet de sang, qui allait en grossissant par saccades, coulait de la tempe de la jeune femme. Elle ouvrit les yeux, mais elle n'y voyait plus. Ses mains s'agitèrent faiblement, elle poussa un soupir, puis resta sans mouvement. Le filet de sang coulait maintenant comme un ruisseau. Monique recula un peu, la regarda, joignit les mains et dit tout haut, oh, « Je l'ai tuée !» Elle ne ressentit en ce moment ni trouble, ni frayeur, ni remords. Elle trouvait cela tout simple. Elle ne songeait à aucune conséquence, ni même à aucune difficulté présente. La voix de Madame Hortense ne résonnait plus à ses oreilles. C'était un grand soulagement pour Monique. Le silence lui paraissait un bienfait énorme. Elle en était toute calme et presque joyeuse. « Je l'ai tuée !» se dit-elle au bout d'un moment. Elle était fâchée contre moi. J'aurais mieux aimé la voir en colère que de la voir pleurer. La voir pleurer, c'est ça que je n'ai pas pu supporter, oui, c'est ça. Sa colère, au fond, ça m'était bien égale. Elle haussa les épaules par un geste de dédain. Le ruisseau de sang coulait toujours, mais plus lentement. Il avait tracé sur la robe de cachemire bleu de la jeune femme un sillon écarlate qui s'assombrissait déjà. Le doux visage était resté triste. L'effroi de la mort n'avait pas eu le temps de le défigurer, et les larmes perlaient encore au bord des yeux à demi fermés. Monique la regardait toujours. Elle n'avait pas la moindre notion du danger. Si quelqu'un fût entré, elle n'aurait pas même songé à chercher une explication. Très lasse, comme si elle avait beaucoup marché, Monique s'assit machinalement sur une chaise qui se trouvait là, et elle continua de regarder sa maîtresse. Elle songeait vaguement à beaucoup de choses confuses, entre autres à un agneau qu'elle avait jadis arraché au nom d'un chien de chasse, et qui, saignant, blessé à mort, la regardait avec des yeux presque humains. Elle était bien aise que madame ne l'eût pas regardé avec ces yeux-là avant de mourir, parce qu'elle n'aurait pas pu le supporter. Qu'aurait-elle fait alors? Mais ce n'était pas la peine d'y songer, puisque ce n'était pas arrivé. La chambre se refroidissait rapidement, et une odeur lourde qui donnait mal à la tête s'y était répandue. Monique frissonna deux ou trois fois, mais elle n'eut pas l'idée de s'en aller. Elle avait une sorte d'impression qu'elle remplissait son devoir en veillant la morte. Elle avait veillé des morts au village, et cette circonstance ne lui paraissait pas plus extraordinaire que les précédentes. Un temps fort long s'était écoulé lorsqu'elle entendit un léger bruit en bas. C'était la porte du jardin qui se refermait. « Oh, on vient chercher le corps, » pensa-t-elle. Son état mental, voisin de la folie, lui inspirait un calme extraordinaire. Un pas monta l'escalier avec précaution, puis s'arrêta sur le palier. Monique tourna la tête et vit Monsieur Dunois qui, stupéfait de trouver la porte ouverte autant que de voir Monique assise le long du mur, s'était arrêté pris d'inquiétude. Elle lui fit un signe de tête pour l'engager à entrer et resta assise. Monsieur Dunois entra et à peine sur le seuil poussa un cri aussitôt réprimé. Ben, « elle pleurait, elle ne voulait pas se taire, » dit Monique. « Je l'avais dit plusieurs fois de ne pas me parler comme ça, alors je lui ai jeté quelque chose à la tête. Elle est morte tout de suite sans rien dire. »« Malheureuse !» fit M. Dunois en secouant Monique par le bras. « Malheureuse !»« Elle m'a dit aussi ce mot-là, » fit la jeune fille, sans résister. « Mais elle avait raison. Comment as-tu pu ?»« Oh, vous n'allez pas me blâmer toujours, » fit-elle en le regardant d'un air irrité. « Vous savez bien que c'est autant votre faute que la mienne. » Monsieur Dunois recula, les yeux hagards. Pour un homme de plaisir qui n'avait jamais cherché dans la vie que des moments agréables, ceci était vraiment trop dur. Après être resté un moment atterré, il s'approcha de sa femme et, tout blême, avec un frisson, il posa sur la main entrouverte qui gisait sur ses genoux. Elle n'était peut-être pas morte après tout. La main était refroidie. Hagard, il interrogea les lèvres, les yeux déjà vitreux. Si, elle était morte. « Cela vaut mieux, » dit tranquillement Monique, « puisqu'elle savait. » « Mais elle est folle !» murmura M. Dunois, en regardant alternativement le cadavre et la jeune meurtrière dont le calme l'épouvantait. Elle n'aurait jamais cessé de me faire des reproches. Elle aurait pensé mal de moi jusqu'à son dernier jour. Elle ne pouvait pas savoir, n'est-ce pas, que c'était vous qui aviez voulu. Qu'est-ce que nous allons faire? Dit le banquier avec un geste irrité qui voulait intimider Monique et qui ne réussit qu'à lui faire hausser les épaules. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Répéta-t-il plus haut en voyant qu'il n'obtenait aucune réponse. Allez chercher les gendarmes, dit-elle tranquillement. Je n'ai pas envie de mentir. Monsieur Dunois crispa ses poings avec un geste de mauvaise colère et la regarda d'un air menaçant. Est-ce que vous croyez que j'ai peur de vous? Dit-elle en fixant sur lui ses yeux clairs et brillants. Le banquier se calma. Évidemment, une querelle avec Monique était ce qui pouvait arriver de pire en ce moment. La pendule marquait presque 11 heures. D'un instant à l'autre, quelqu'un de la maison pouvait rentrer. « Mais tu ne penses qu'à toi, dit-il, mais moi, je suis en danger autant que toi. J'ai une situation à garder. Et puis enfin, on peut m'accuser. Il faut donner le change. Qu'on croit au moins que c'est un voleur. » Oh, je ne mentirai pas, dit fièrement Monique. Et je ne te demande pas de mentir. Allez, tiens, va dans ta chambre, couche-toi comme si tu avais dormi. Quand tu entendras du bruit, descends et ne dis pas que c'est toi. Je ne te demande que cela. Vous savez mentir, vous, fit-elle en le regardant dédaigneusement. Pense donc, reprit-il durement, qu'il s'agit de ma considération, de ma vie tout entière, que je puisse être déshonoré. Allez, fais cela pour moi, Monique. Tu ne veux pas me faire du mal à moi. Tu m'aimes pourtant. Non, répondit-elle brièvement. Depuis qu'elle m'a dit le premier mot, je ne vous ai plus aimé. Je vous déteste. Je vous détestais aussi avant. Dunois réprima un mouvement de rage. Qu'importait qu'elle le haïsse. L'essentiel était qu'elle gardât le silence, qu'elle ne révélât pas l'inqualifiable scandale. C'est pour le coup qu'il ne put oser se montrer en plein jour. « Bon, déteste-moi si tu veux, reprit-il avec une douceur qui lui coûtait l'emploi de toute son énergie, mais ne dis rien. À cause de ta mère, ajouta-t-il au hasard, à cause des gens de ton pays qui auraient honte de toi. » Elle le regarda comme si elle lui défendait d'ajouter un mot. « C'est bon, dit-elle après un petit silence qui pour Dunois fut interminable. « Je ne dirai rien, mais je ne mentirai pas, je vous en préviens. »« Soit, alors va-t'en, va-t'en vite. Tu n'as rien vu, tu ne sais rien, tu es allé te coucher aussitôt après mon départ. C'est entendu, allez, va !» Elle disparut avec des mouvements d'une roideur automatique. Elle monta lentement, sans s'arrêter. Après un court intervalle, il entendit la porte se refermer en haut, et il poussa un soupir de soulagement. L'esprit pratique du banquier lui avait suggéré sur le champ un plan assez facile à exécuter. Avec un poignard d'acier qui servait de coupe-papier, il fit rapidement sauter la serrure d'un petit secrétaire où Madame Dunois enfermait ses bijoux et son argent. Prenant à poignée l'or et les billets de banque, il jeta ceux-ci dans la flamme mouronne du foyer, où il les aida à se consumer, après quoi il en mêla les cendres à celles du bois. Ensuite il courut à sa chambre et jeta ses clés dans la poche d'un vêtement porté la veille, puis il descendit rapidement l'escalier, en ayant soin de laisser un louis sur le palier. Deux autres louis tombèrent près de la porte du jardin par laquelle il sortit. Dans la ruelle, sur le seuil même, il jeta encore une pièce, puis il fit le tour et alla sonner à la porte de la rue. Oh, tout ceci avait pris du temps. quelques employés venaient de rentrer par l'escalier de service, car on voyait des lumières aux fenêtres de leur chambre tout en haut de la maison. Dans la loge du concierge, on festoyait encore. Monsieur Dunois fut obligé de sonner deux fois avant qu'on lui ouvrit. « Ah, comment, monsieur ?» dit le vieux domestique. « Vous n'avez donc pas pris votre clé ?»« Ben, je sais pas, je l'ai perdue, ou bien je l'ai laissée dans ma chambre, » répondit le maître. Il s'était fait une physionomie souriante. Le froid de la nuit et l'animation qu'il avait déployée avaient fait monter un peu de rose à ses joues. Il avait bien l'air d'un homme heureux qui a dîné au cercle et fait ensuite une partie de cartes. Le concierge referma la porte de la rue. Monsieur Dunois monta lentement l'escalier. La porte qui donnait sur le jardin avait sa physionomie ordinaire. Rien n'indiquait qu'il eût vu ou non passer un criminel. Pour l'œil prévenu de M. Dunois seul, brillaient dans l'ombre les deux louis tombés près du seuil. Comme il atteignait le palier, il poussa une exclamation. Le concierge, qui prenait en ce moment congé de ses hôtes, l'entendit et ouvrit la porte vitrée. « Monsieur, » dit-il, croyant répondre à un appel. « Qu'est-ce que c'est que cela ?» fit M. Dunois en indiquant la pièce d'or. Ben, « C'est un louis, monsieur, » répondit le brave homme. « Mais comment se trouve-t-il là ? Et cette porte qui est ouverte ?» Le banquier indiquait l'appartement de sa femme. « Et madame qui n'est pas enfermée ?» s'écria le concierge. Mu par une curiosité bien naturelle, il avança rapidement et recula avec un cri d'horreur. « Oh, on a assassiné madame !»« Ma femme ?» cria monsieur Dunois. Attiré par le bruit des voix, les habitants de la maison accouraient de tous côtés, leurs bougies à la main. « Oh, secours !» hurla le concierge affolé. « Au voleur, à l'assassin !» Sur le seuil de la chambre de Madame Hortense se pressaient maintenant 10 têtes effarées. Monsieur Dunois, appuyé au mur en face de la chaise longue, livide, les bras pendants, semblait la personnification de l'horreur. Ce n'était pas un rôle qu'il jouait. Tantôt, la nécessité de sauvegarder les apparences avait noyé tout le reste. Il avait fait comme un naufragé qui, voyant sombrer autour de lui sa famille et sa fortune, n'a pendant un moment d'autre idée que celle de sauver sa propre vie. Mais à présent, Dunois ressentait l'horreur du crime. La perception de la perte qu'il avait faite se doublait de la pensée qu'il était la cause réelle, quoique détournée, du meurtre. C'était sa femme, la digne maîtresse de son logis, la douce martyre des dernières années, la belle et charmante compagne des jours antérieurs, qui était là, inanimée. « Pauvre femme !» dit-il, et de vraies larmes tombèrent de ses yeux. Monsieur Dunois était un viveur, mais ce n'était point un hypocrite. Il regrettait sincèrement cette pauvre Hortense qu'il avait si peu gênée, qu'il lui donnait de bons conseils et qu'il était toujours sûr de trouver là, quand un froissement quelconque de la vie lui inspirait le besoin de rechercher une main amie. Et puis la voir ainsi, c'était vraiment trop horrible. « Ils l'ont tué avec un chenet, monsieur, » dit le concierge, qui buvait ses larmes. « Tenez, le voyez-vous par terre ? Pauvre bonne dame, un ange du bon Dieu ! Et ils l'ont tué pour voler, le secrétaire est forcé. » « Cherchez !» cria M. Dunois. Ben, il n'a pas pu passer par la porte, dit le concierge éveillé tout le soir. Oui, mais par le jardin. On courut et l'on trouva les pièces d'or qui marquaient le chemin parcouru par le voleur imaginaire. C'est Monique qui l'a vu la dernière, cria Toinette, qui arrivait folle de douleur. Monique, Monique, crièrent 10 voix. Elle descendit, pâle comme un suaire. On a tué madame, disait-on autour d'elle. Ma petite madame, fit-elle avec une indicible expression de pitié, de tendresse et de respect. Oh, ma petite madame. Hubert arriva, la tête nue, les yeux creusés comme par un mois d'insomnie. On n'a pas tué, dit-il, c'est pas vrai. On lui fit place. Ceux qui avaient déjà vu comprenaient qu'il fallait se reculer pour laisser passer les autres. Il s'arrêta court devant la chaise longue, les mains serrées dans une crispation intense et douloureuse. Elle, dit-il, elle. Oh. La tête lui tournait, il voyait rouge. Il avait envie de ressaisir le chenet tombé et d'en frapper l'assassin. Il regarda autour de lui et ses yeux féroces rencontrèrent le visage blême de M. Dunois. Brusquement, il tourna la tête et chercha Monique. Elle était à genoux près de la porte, comme écrasée sous le poids de la douleur. Elle regardait sa maîtresse avec une prière ardente dans ses yeux brûlants. « Vous que j'aimais tant, disait-elle tout bas, vous si bonne, si belle, ma petite madame, oh !» Elle souffrait une véritable agonie et ne pouvait exprimer ses souffrances. Non qu'elle tînt à la vie, mais la parole lui manquait. En ce moment, elle n'eût même pu s'accuser. Son cerveau surmené ne liait plus les idées les unes aux autres. « C'est vous qui l'avez vue la dernière ?» lui demandait-on. « Quand et à quelle heure ?»« Comme je voudrais être à sa place, » dit Monique tout haut, en regardant d'un air suppliant la personne qui lui parlait. « Non, non, ce n'est pas Monique, c'est moi, » répondit M. Dunois d'une voix claire. Quand j'ai dit bonsoir à ma femme à 8 heures, elle venait de renvoyer Monique qui paraissait souffrante. Elle m'avait dit qu'elle attendrait pour se mettre au lit le retour de Toinette. « Mais pourquoi suis-je sortie ? » s'écria celle-ci en se tordant les bras. « Oui, c'est moi qui ai engagé Monique à monter dans sa chambre. Est-ce vrai, voyons ? Répondez, mon enfant, c'est très important. » « Est-ce vrai que c'est moi qui vous ai dit de monter à votre chambre ?»« C'est vrai, » répliqua la jeune fille sans remuer. Elle parlait comme dans un rêve, sans quitter des yeux le cadavre de sa maîtresse. Hubert regardait M. Dunois avec une intensité qui eût effrayé celui-ci s'il s'en fût aperçu. Et la conviction grandissait incessamment dans son esprit que cet homme était le meurtrier. Depuis qu'il avait vu le banquier avec la petite servante sur le palier, le jeune homme avait éprouvé une crainte vague de ce qui allait arriver. Loin de se douter que Madame Hortense pût s'assurer par elle-même de ce qu'il s'efforçait de lui cacher, il avait craint qu'il ne s'adressât à de moins scrupuleux que lui et n'avait cessé de retourner dans sa tête les redoutables conséquences qu'entraînerait une indiscrétion. Mais en voyant sans vie celle qu'il aimait par-dessus tout, il se dit que dans un moment de colère, M. Dunois, exaspéré par les reproches, avait frappé sa femme. Quelqu'un avait donc parlé. Mais qui cela pouvait-il être alors que tous les gens épouvantés avaient l'air de ne rien savoir? La police arriva sur ces entrefaites. Dès la première alerte, quelqu'un de la maison était allé à toutes jambes prévenir les autorités. Une enquête sommaire fut faite avec beaucoup de précision et d'honnêteté. « Quelle somme contenait le secrétaire ? » demanda-t-on à M. Dunois. « Oh, je ne sais, 700 ou 800 francs, peut-être plus. En or ? » « Oh, billets principalement. Je remettais les sommes en billets à ma femme. Ben, les billets et l'or ont disparu. On n'a pas touché aux bijoux. » De peur sans doute que ceux-ci ne fussent reconnus quand on voudrait s'en défaire. Est-ce que la porte du jardin était habituellement ouverte ? Non, pas habituellement, répondit M. Dunois avec une légère hésitation. Mais comment se fait-il qu'une porte aussi dangereuse ne fût pas toujours cadenassée et verrouillée ? Oh, je passais quelquefois par là pour entrer le soir, répliqua le banquier. Elle était fermée au jour tombant, et je me servais d'une clé pour l'ouvrir. Bon, c'était en tout cas fort imprudent, fit observer le fonctionnaire. Le voleur a dû avoir des complices dans la maison. Un murmure de réprobation circula dans la foule, assemblée sur le palier, dans l'antichambre, partout où quelqu'un pouvait trouver place, car beaucoup d'amis et de voisins s'étaient joints aux domestiques et aux employés. Malgré l'heure indue, le bruit de l'assassinat s'était déjà répandu dans le quartier. Qui avait-il dans la maison au moment du crime ? Monsieur Dunois pâlit et regarda autour de lui. D'après la réponse qui allait être faite, son stratagème ou bien réussissait ou bien tournait misérablement contre lui. « Moi, dit le concierge, moi, ma femme, et une demi-douzaine de parents, nous nous étions dans la loge, et nous n'avons rien entendu. On n'entend rien de ce qui se passe dans la maison. Qui encore ?»« Monique, cria Antoinette, c'est elle qui était chargée de veiller ma chère maîtresse. Elle ne devait pas la quitter, non, monsieur, elle était responsable de madame. » Une pauvre chère âme qui ne pouvait pas mettre un pied devant l'autre sans qu'on la soutînt sous le bras. Si Monique avait été là, monsieur l'assassin n'aurait pas pu faire son coup. Monique, où est Monique ? On l'avait relevée, on la traîna devant le fonctionnaire. Femme de chambre au service de madame Dunois ? Monique inclina la tête. « Vous l'avez quitté à 8 heures, c'est M. Dunois qui vous a dit de monter. » Elle garda le silence avec un faible signe qui passa pour un acquiescement. « Vous n'avez rien entendu ?» Elle secoua la tête, non, elle n'avait rien entendu. « Vous ne savez rien ?» Elle ne répondit pas. On se regardait dans la foule. Hubert la tenait sous son regard, mais elle ne le voyait pas. « Vous n'avez rien entendu ni vu personne. Oh, c'est bien extraordinaire !» Elle regarda avec une expression d'agonisante le magistrat instructeur. « Cette fille est au moins complice !» fit celui-ci en s'adressant à demi-voix à M. Dunois. Le banquier n'osa répondre. Hubert s'était tourné vers lui comme pour lui demander ce qu'il allait dire. Un mouvement se fit. Monique se trouva les mains prises dans les menottes. Un grand cercle se fit autour d'elle et des agents qui la tenaient. « Cette fille ?» fit M. Dunois d'une voix étranglée. « On va s'occuper d'elle. » En attendant, elle parlera sans doute et révélera le nom de son complice. Le banquier frémit de tout son corps. Un instant, il eut envie de dire la vérité, puis il se rendit compte que ce serait horrible. Il le sentait bien. Monique avait dit vrai dans le premier moment. La main de la petite servante avait frappé, mais c'était du maître qu'était venu le coup. La nuit s'était écoulée dans toutes ses formalités. Lorsque le sinistre cortège sortit de la maison, les premières lueurs d'une pâle aube de janvier se montraient au ciel. Une foule hostile s'était amassée dans la rue, prête à huer les coupables, si l'on en avait trouvé. « Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison ?» demanda un voyageur fatigué qui arrivait d'un pas lourd et qui regardait le numéro d'un air inquiet. « Un crime ? Un crime ? On a tué quelqu'un ? Une femme ? Oh, mon Dieu ! Pourvu que ce soit pas elle ! Une jeune femme ? Oui, et bonne et jolie. Faut-il être sans cœur ? » Marin Bonamy, s'étant poussé au premier rang, essaya d'entrer. « On ne passe pas, » lui fut-il répondu. « Mais j'ai affaire là-dedans. Vous attendrez. Vos affaires ne sont pas si pressées que celles de la justice, » lui répondit un agent railleur. Un grand mouvement se fit dans la foule. Marin Bonamy regarda de toute l'intensité de ses craintes et de sa passion. Monique parut sur le seuil, les menottes aux mains, avec une sorte de résignation satisfaite sur le visage. « Oh, l'assassin, allô !» hurlèrent quelques énergumènes. « Monique !» s'écria Marin en lui tendant les bras. « Oh, ils ne t'ont pas tué ! Oh, Monique !» Elle l'aperçut, recula en chancelant, poussa un cri d'effroi et tomba la face contre terre. « Oh non, non, pas cela » criait-elle. « Oh, je ne puis pas supporter cela. Emmenez-le ou tuez-moi. » On l'avait relevée, on la soutenait sous les bras, en face de la foule hostile. Elle cachait sa figure comme elle pouvait derrière un des agents qui la maintenait. « Mais qu'est-ce qu'on lui veut donc ?» demanda Marin, qui ne comprenait pas. « Mais c'est elle qui a tué l'autre !» répondirent 20 voix. « Allô, à la guillotine, allô !»« Elle ?» fit Marin en se retournant comme un lion. « Mais vous en avez menti !» Un éclat de rire terrible lui répondit, le rire gouailleur et sans pitié qui accueille les naïfs quand ils refusent de croire au mal. Monique ne l'entendit pas, elle avait glissé à terre une seconde fois, et les agents n'avaient plus entre eux qu'un corps inerte. On fit avancer la voiture, elle y fut transportée. Marin ne disait plus rien. Quand les chevaux s'ébranlèrent, il se mit à courir. Il courut tant et si vite qu'il arriva en même temps qu'eux devant la porte de la prison. On tira de la voiture Monique, toujours inanimée. Elle fut transportée à l'intérieur et Marin, resté seul au dehors, se demanda si tout cela n'était pas un mauvais rêve. Non, c'était bien la réalité. Alors il se demanda de quel droit une telle souffrance tombait sur un pauvre diable comme lui, qui n'avait rien fait à personne. Et il ne trouva pas de réponse.